Il est pile 18h sur France Culture. Aurélie Kiefer, bonsoir.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. La France veut mettre le CETA sous surveillance pour que le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada ne nous mette pas en contradiction avec nos engagements en faveur du climat. Nicolas Hulot propose une forme de veto climatique. Faut-il prolonger l'autorisation du glyphosate et pour combien de temps? La Commission européenne n'a pas su trancher. Pendant que le débat se poursuit, les agriculteurs se demandent vers quelle alternative se tourner. Au Kenya, l'élection présidentielle se déroulera demain malgré les contestations. Faute d'avoir obtenu un report du scrutin, l'opposant Raila Odinga appelle les électeurs à rester chez eux. Enfin, hommage à Fats Domino, pianiste et chanteur précurseur du rock'n'roll. Il s'est éteint à la Nouvelle-Orléans à 89 ans. L'inquiétude s'était propagée la semaine dernière dans les rangs même de la majorité présidentielle. Un rapport d'experts commandé par le gouvernement a récemment mis en évidence les points négatifs du CETA, le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Or, cet accord est déjà entré provisoirement en vigueur le 21 septembre. À l'issue du Conseil des ministres, le gouvernement a présenté un plan d'action destiné, je cite, à mettre le CETA sous surveillance. Il prévoit notamment un suivi des impacts pour les filières concernées et un renforcement des contrôles sur les produits interdits en Europe. Le plan prévoit aussi la mise en place d'une forme de veto climatique. Explication du ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot.
Je veux simplement témoigner ici qu'il y a une volonté d'essayer effectivement de mettre ce CETA sous surveillance et de vérifier si on peut se doter d'outils, d'instruments assez complexes. Mais je dirais qu'on va mettre en place ce qu'on peut appeler une forme de veto climatique qui doit nous assurer dès maintenant que les dispositions qui sont destinées à mettre en œuvre nos propres engagements climatiques ne puissent en aucun cas, et notamment dans le cadre des tribunaux d'arbitrage, être attaquées par un investisseur. Voilà, ce qu'on veut pas, c'est qu'il y ait une contradiction qui a été bien pointée du doigt entre le CETA et nos propres engagements pour le climat, parce qu'il y va de la crédibilité de la France qui est acquise jusqu'à présent dans le leadership sur la lutte contre le changement climatique. La mondialisation, ça doit être un progrès pour tous. Elle ne doit pas tirer vers le bas les normes et les acquis, elle doit plutôt les tirer vers le haut. Elle doit non pas contribuer à creuser les inégalités, mais au contraire, elle doit contribuer à les réduire.
Nicolas Hulot, alors je me tourne vers vous, Véronique Rebérotte, vous êtes notre spécialiste environnement. Un veto climatique, qu'est-ce que ça veut dire au juste?
Alors la commission mandatée par Emmanuel Macron lui-même pour évaluer l'impact du CETA sur l'environnement et le climat avait été très claire le mois dernier. Elle jugeait l'accord climato incompatible avec trois lacunes majeures. L'augmentation bien inévitable des émissions de CO2 liées aux échanges commerciaux accrus entre le Canada et la France. Aucune incitation aussi dans ce CETA dans le cadre des investissements réciproques à aller vers des technologies moins émettrices de carbone et puis rien non plus sur une possible convergence d'instruments de lutte contre le réchauffement climatique. Le CETA ne fait référence à l'accord de Paris sur le climat que dans des documents annexes avec un risque majeur, selon Nicolas Hulot, que demain un investisseur canadien vienne attaquer devant des tribunaux d'arbitrage des engagements climatiques pris par la France. Concrètement, si demain un foreur canadien spécialisé dans la production de schiste bitumineux veut venir forer en France, Paris bien pouvoir lui opposer la loi sur les hydrocarbures de Nicolas Hulot et son engagement à ne plus autoriser de forage sur notre sol à compter de 2040. Un veto climatique permettrait alors de s'opposer à ce type d'investissement incompatible avec une lutte contre le réchauffement climatique. Un veto climatique, eh bien, c'est éviter que des investisseurs étrangers déposent plainte et demandent réparation à la France pour entrave au libre-échange. Petit problème, cette sorte de veto climatique, comme l'appelle aujourd'hui Nicolas Hulot, défendu depuis longtemps par les ONG, arrive un peu tard. Introduire ce veto dans le CETA nécessite une modification du contenu du CETA et donc une renégociation de l'accord. Et là, c'est loin d'être fait.
Véronique Rebérotte, pour la 5e fois consécutive, le vote sur le glyphosate est reporté à Bruxelles. Les 28 États membres n'ont pas réussi à trancher pour ou contre un renouvellement de l'autorisation de l'herbicide. Le vote, initialement prévu demain, est repoussé en novembre. Or, le temps presse. La licence du glyphosate arrive à expiration le 15 décembre. Alors, qu'est-ce qui va se passer, Lakshmi Lota?
La Commission européenne va maintenant devoir faire une nouvelle proposition aux États membres. C'est la cinquième fois consécutive que le vote sur le glyphosate est reporté, faute d'accord. Les 28 sont divisés sur la question. Irlande, Pays-Bas, Royaume-Uni, Danemark se prononcent pour une réautorisation du glyphosate en Europe. La France, l'Italie, l'Autriche sont contre. D'autres pays ont changé d'avis et c'est la surprise de cette matinée pour des ONG comme Greenpeace. La Belgique et la Suède se disent finalement défavorables à un renouvellement de la licence de l'herbicide. Or, il faut une majorité qualifiée pour un accord. Cette saga dure depuis 2 ans. Pour l'eurodéputé vert Michel Rivasi, cynique ou simplement déphasé, la position de la Commission européenne interpelle de plus en plus. Il faut, selon elle, une proposition d'interdiction à présent et plus de renouvellement. C'est aussi ce que demandent les ONG qui ont signé la pétition citoyenne européenne « Stop au glyphosate », prévoir une transition, un accompagnement des agriculteurs pour arrêter le glyphosate. On attend donc une nouvelle proposition et un nouveau vote à une date indéterminée pour le moment, indique la Commission européenne.
Laxmi Lotha à Bruxelles. La France favorable à un renouvellement d'autorisation de 3 ans, mais pour permettre un consensus, elle se dit prête à accepter une durée de 4 ans. Mais que ce soit 4, 5 ou 7 ans, c'est une période qui semble bien courte aux agriculteurs. La FNSEA estime qu'il n'y a aujourd'hui pas d'alternative à cet herbicide contesté. Mais pour Bertrand Aumont, il y a moyen de faire autrement. Bertrand Aumont, c'est un agronome normand. Il conseille et accompagne un réseau d'exploitation où les agriculteurs parviennent à réduire de plus de 50% leurs intrants chimiques. Selon lui, il faut repenser le travail du sol.
Qu'on laboure ou qu'on laboure pas, il y a des moyens de ne pas utiliser trop de glyphosate, voire pas du tout. C'est plus facile si on laboure de fait. Il y a des arguments pour ne pas labourer tout le temps. Il n'est pas forcément nécessaire, comme on l'entend, de dire qu'il ne faut plus jamais labourer pour avoir un sol vivant. On peut tout à fait alterner et on peut continuer de travailler le sol, notamment en surface, les années où on ne laboure pas. Et en fait, c'est par cette voie-là que les gens arrivent à éviter le glyphosate. C'est quand même largement par le travail du sol. Après, ce qui n'est pas parfait, là où je crois que ce n'est pas forcément complètement acquis, là où je crois que l'interdiction pourrait donner un booster, c'est notamment sur les outils de travail du sol qui pourraient faciliter les choses et éviter un nombre de passages qui est parfois plus effectivement important.
C'est-à-dire donc, parce que les outils actuels sont pas assez performants?
C'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément conçus pour cette question d'éviter le glyphosate avant les semis. On peut très bien imaginer, et c'est le cas, que même des agriculteurs un peu pointus sont capables d'imaginer des outils qui leur rendraient mieux service pour éviter le recours au glyphosate avant les semis. Enfin, moi, j'en parlais encore hier. Souvent, ils vont aller rechercher, pourquoi pas, même des outils assez anciens. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser une gamme d'outils plus importante pour tendre vers une absence ou une quasi-absence de glyphosate.
L'agronome Bertrand Aumont, interrogé par Lise Verbeek. Le gouvernement précise sa réforme de l'assurance chômage et de la formation professionnelle. Entouré de Muriel Pénicaud et de Jean-Michel Blanquer, Édouard Philippe a donné cet après-midi des indications sur la feuille de route et le calendrier de la réforme. Anne-Laure Chouin, vous êtes à Matignon. En fait, le chef du gouvernement n'apporte pas beaucoup de réponses aux questions que se posent les partenaires sociaux.
En effet, en tout cas, échaudés par les ordonnances, les syndicats réclamaient que pour ce volet 2 des réformes sociales, la méthode soit différente. Dont acte, Édouard Philippe et Muriel Pénicaud ont précisé tout à l'heure la formule et le calendrier de ces prochaines réformes. Pour celle de l'apprentissage, ce seront des groupes de travail pilotés par France Stratégie, chargés de faire des propositions d'ici janvier. Pour la réforme de la formation professionnelle, un document d'orientation sera remis aux syndicats qui négocieront en même temps au niveau des branches. Et puis, sur le sujet sensible de la réforme de l'assurance chômage, il y aura certes une réunion avec toutes les organisations syndicales, comme elle l'avait demandé, mais ce sera une concertation et non une négociation. Et pour cause, les sujets qui fâchent sont loin, loin d'être réglés, au premier rang desquels la gouvernance du futur système. Qui va le piloter, l'État ou les partenaires sociaux? Muriel Pénicaud a même failli oublier d'en parler, un lapsus révélateur. Le sujet sensible, lui aussi, du renforcement du contrôle des chômeurs est toujours à l'ordre du jour. Celui du bonus-malus pour allonger la durée des contrats aussi. Et puis, comment financera-t-on l'arrivée des démissionnaires et des indépendants dans une assurance chômage dont le régime est toujours déficitaire? Là encore, les ministres ont botté en touche. En tout cas, il y aura au printemps 2018 un seul projet de loi qui regroupera donc ces 3 sujets.
Anne-Laure Chouin avec les moyens techniques de Laurent Macchietti. Le Conseil d'État a examiné ce matin le recours du collectif Vive l'APL, opposé à la baisse de 5 euros par mois des aides personnalisées au logement. Cette baisse forfaitaire touche sans distinction 6,5 millions de bénéficiaires. Parmi eux, Rachid, venu témoigner ce matin au Conseil d'État. Vous l'avez rencontré, Antoine Maret.
Effectivement, Rachid a la quarantaine, il est père de famille, il a perdu son travail et il a connu la rue pendant plus de 5 ans. Depuis quelques temps, il vit dans un logement transitoire grâce à une association et il tente de se réinsérer petit à petit dans la société. Comme 6,5 millions de Français, Rachid va toucher 5 euros de moins à la fin du mois. 5 euros qui comptent pour cet homme qui vit en dessous du seuil de pauvreté.
Moi, avec 5 euros, je vous fais des miracles. Pour moi, 5 euros, c'est concrètement manger 2 jours. 20 euros me permettent de me nourrir pendant une semaine. 5 euros, c'est l'occasion de me permettre un moment de convivialité avec ma fille, avec des amis. 5 euros sur l'année, c'est 60 euros, c'est des soins. De ne pas les avoir, en fait, font que je vis en permanence en faisant des renoncements, faisant des choix, en acceptant de me priver. En fait, je ne pars pas en vacances. 5 euros, c'est le minimum que je n'ai pas.
Rachid est venu au Conseil d'État à la demande du collectif. Il a pu exposer très concrètement au juge des référés, Francis Lamy, sa situation personnelle.
Je suis venu en mon nom, mais je suis venu aussi pour témoigner au nom de millions de gens qui vivent ma situation. J'en connais beaucoup. Pour que je puisse me sentir en sécurité matérielle et me convaincre d'avoir une dignité, pour garder le peu que j'ai, j'essaie de ne pas le dépenser. En fait, je n'ai pas la notion du plaisir dans ma vie.
Rachid s'est retrouvé face au représentant du gouvernement qui s'est défendu en expliquant que la réduction de 5 euros est compensée par une hausse du RSA. Mais celui-ci n'a pas souhaité s'exprimer à notre micro.
Merci Antoine Maret. Les victimes de Mohamed Merah prennent la parole devant la cour d'assises de Paris. Parmi les témoignages, celui de Loïc Libert par visioconférence. Grièvement blessé lors de l'attaque de sa caserne à Montauban, le militaire est aujourd'hui tétraplégique. Le compte-rendu d'audience de Florence Thuram.
Autant de paroles et autant de douleurs. Au fil des témoignages, le silence s'impose, lourd, poignant, dans la salle d'audience. La douleur physique exprimée par Loïc Libert, le militaire de Montauban, grièvement blessé par Mohamed Merah. Une balle dans la nuque, près des cervicales, l'a rendu tétraplégique. Il est depuis toujours hospitalisé aux Invalides. Il suit dans sa chambre le procès par visioconférence et il témoigne sans que son visage n'apparaisse à l'écran, sous assistance respiratoire permanente. « Je dois parler doucement », prévient afin de ne pas perdre mon souffle. Ma vie est un combat, la douleur psychique aussi présente à chaque réveil. Je vis seulement à travers mes souvenirs, le présent m'est insupportable, le futur incertain. On nous a brisé, monsieur le président, reprend pour sa part Radia Le Gouade, la sœur de son compagnon d'armes, Mohamed Le Gouade, abattu par Mohamed Merah. Elle l'a tous les jours, ou presque, sur le banc des parties civiles. Moi aussi, j'avais un petit frère, lance-t-elle sans regarder l'accusé. Mais j'étais fière de mon petit frère, il ne tuait pas des enfants. J'étais venue sereine, poursuit-elle, mais aujourd'hui j'éprouve de la colère. J'apprends des choses que je ne connaissais pas, la taquilla, la ruse, ça m'inquiète et j'ai peur pour la suite. La douleur enfin de ce regret, énoncé d'une voix douce par une toute jeune femme brune. Sharon était lycéenne, hébergée dans la famille Monsénégo, dont la petite fille Myriam, 8 ans, a été tuée à l'école aux Aratora. Je revois son corps porté dans la synagogue, ses collants pleins de sang. Le matin, elle m'avait demandé de lui faire une tresse parce qu'elle adorait que je la coiffe. Et je n'ai pas pris le temps, soupire-t-elle, et j'ai toujours ce regret-là.
Florence Thuram, au Palais de Justice de Paris. Une nouvelle manifestation doit se dérouler ce soir à Barcelone, à l'appel des indépendantistes. Son slogan, ni 155, ni élection, la République maintenant. 155, c'est l'article de la Constitution dont le Sénat espagnol doit voter la mise en œuvre vendredi. Article qui entraînerait une suspension de l'autonomie catalane. Les élections, c'est l'autre piste évoquée, des élections régionales anticipées que certains appellent de leur vœu dans l'espoir de sortir de la crise. À Barcelone comme à Madrid, l'atmosphère est fébrile. Les précisions de Mathieu de Taillac à Madrid.
Déclaration d'indépendance ou élection régionale, mise sous tutelle de la Catalogne ou retour au dialogue. À Barcelone comme à Madrid, les politiques pèsent le pour et le contre de décisions drastiques que chacun menace d'exécuter dans les tout prochains jours, car l'agenda institutionnel accélère le temps politique. Au Sénat espagnol, d'abord une commission demain après-midi, puis la séance plénière après-demain. doivent évaluer puis voter les mesures que souhaite prendre Mariano Rajoy pour contraindre les institutions catalanes à retrouver le cadre légal. Le gouvernement espagnol réclame notamment au Sénat de l'autoriser à destituer le président, l'indépendantiste Carles Puigdemont, ainsi que l'ensemble de son gouvernement catalan, et d'exercer dans les ministères espagnols les fonctions qui reviennent habituellement à l'administration régionale. Y a-t-il encore une manière d'éviter des mesures aussi fortes ? Oui, fait savoir Madrid, si Puigdemont convoque des élections régionales et revient au cadre légal. L'option est étudiée à Barcelone et les indépendantistes les plus modérés poussent dans cette voie, effrayés notamment par les transferts des sièges sociaux des entreprises hors de la région. 1500 ont suivi cette voie depuis le 1er octobre. Mais les jusque-boutistes demandent au contraire à Puigdemont de déclarer l'indépendance. Il en aura l'occasion demain après-midi, après-demain, à l'occasion de la séance plénière du Parlement catalan.
Et finalement, Carles Puigdemont ne se rendra pas demain devant le Sénat espagnol. Israël approuve un vaste projet de logement pour colons au cœur de Jérusalem-Est. Ce nouveau projet est dénoncé par les adversaires de la colonisation. Ils y voient un coup de plus porté au processus de paix. La correspondance d'Étienne Monin à Jérusalem.
Quand on approche de la colonie de Neuf Zion au sud de Jérusalem, on comprend vite qu'il y a deux mondes hermétiquement séparés sur le même territoire. On est dans le quartier du Djebel Moukaber. Il est tristement célèbre à Jérusalem. Plusieurs auteurs d'attaques et d'attentats des Palestiniens viennent d'ici. La colonie est un facteur de tension. Son aspect moderne et propre contraste sensiblement avec les rues étroites et défoncées qui traversent le Djebel Moukaber. Ce type de colonie existe également dans d'autres quartiers. La colonie est au centre de la partie palestinienne, mais avec ces autorisations, la colonie de Neuf Zion prend une dimension supplémentaire qui plombe encore plus, d'après les ONG, un règlement négocié de Jérusalem. Ce nouveau feu vert arrive une semaine après une autre série d'autorisations. Plus de 2600 projets de construction ont été acceptés en Cisjordanie, dont 30 dans la ville d'Hébron. D'après l'organisation La Paix Maintenant, le nombre de logements nouveaux a presque triplé en 2017 par rapport à 2016. Les États-Unis, qui souhaitent reconstruire la confiance pour avancer vers un règlement du conflit, ne voient pas les constructions comme un obstacle à la paix. Ils demandent juste une certaine retenue au Premier ministre israélien qui se présente depuis des mois comme le meilleur défenseur des colons.
Il y aura bien une élection présidentielle demain au Kenya. Après des semaines d'incertitude, le président de la commission électorale l'a confirmé aujourd'hui. La Cour suprême du pays, qui avait été saisie par l'opposition, n'a pas pu se prononcer sur un éventuel report du scrutin. Le président sortant, Uhuru Kenyatta, se dit donc prêt pour l'élection, tandis que l'opposant Raila Odinga appelle ses supporters au boycott. Le point à Nairobi avec Charlotte Simonard.
« J'ai reçu des garanties des autorités sur la sécurité des électeurs », a déclaré le président de la commission électorale, évoquant également des progrès réalisés selon lui au sein de la commission. L'homme justifie ainsi le maintien du scrutin demain, alors qu'il y a quelques jours encore, il exprimait ses doutes quant à sa capacité à organiser une élection crédible. Une déclaration vivement rejetée par l'opposition. Cet après-midi, Raila Odinga, le chef de file, a rencontré ses supporters dans un parc du centre-ville de Nairobi. Devant des milliers de personnes acquises à sa cause, il a appelé au boycott de l'élection, leur demandant de rester chez eux et de prier. L'opposition renonce donc à l'organisation de manifestations massives le jour du vote et appelle au calme, alors que les forces de l'ordre sont sur les dents. Uhuru Kenyatta, président sortant, est donc assuré de remporter le scrutin demain. Mais avec quelle légitimité si l'appel au boycott est respecté? À l'annonce des résultats, d'autres recours en justice pourraient bien être introduits et le scrutin à nouveau annulé. Une nouvelle période d'incertitude serait dévastatrice pour le Kenya qui paye cher la crise politique actuelle. Les investisseurs boudent le pays, le chômage et l'inflation pourraient dangereusement augmenter. L'avenir de la première économie d'Afrique de l'Est reste suspendu.
Le roi du rhythm and blues est mort. Fats Domino s'est éteint à la Nouvelle-Orléans, sa ville natale. Le pianiste et chanteur américain avait 89 ans. Retour sur sa carrière avec Yann Bertrand.
Il n'y a qu'à regarder la liste de ceux qui se réclament de près ou de loin de son influence. Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, les Rolling Stones, les Beatles. Oui, Fats Domino était un véritable pionnier. Né dans la Louisiane ségrégationniste de 1928, le jeune homme choisira la voie du rhythm and blues, travaillant et maltraitant ses doigts au piano dans la maison familiale. Premier disque The Fat Man, sorti en 1949. Au final, Fats Domino écrira certains titres légendaires. You made me cry when you said goodbye. Is that a shame? nous transforme, des balades, Ain't That a Shame, Blueberry Hill sont ces faits de gloire. Personne dans les années 50, à part Elvis, n'a vendu plus de disques que lui, près de 70 millions au soir de sa vie. Après une vie de tournées et de tours de chant, il s'était définitivement retiré dans sa maison de la Nouvelle-Orléans. C'est là qu'il s'est éteint.
I found my thrill on Blueberry Hill. On Blueberry Hill. When I found you.
Fats Domino, demain les brouillards matinaux s'attarderont sur la moitié nord de l'Hexagone et de nouveaux nuages arriveront par la Bretagne l'après-midi. Dans le sud, soleil et douceur, il fera 8 à 16 degrés le matin, 16 à 26 l'après-midi jusqu'à 28 sur le sud-ouest. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.